Bonjour à tous. On va débuter cette rencontre autour donc du numéro 5 du magazine Viso, qui a été réalisé donc par les étudiants en journalisme de l'IJBA à Patras en Grèce. Patras, qui est la troisième ville du pays et qui est en fait une ville dont on parle peu parce qu'elle est un peu à l'écart des sentiers touristiques. Il n'y a pas forcément de circuits et surtout de routes qui conduit dans de très bonnes conditions, mais c'était pour nous, en tout cas, un laboratoire de tout ce qui pouvait se passer en Grèce. Et quand on s'est intéressé à cette destination, on s'est justement demandé, après tout ce qu'on avait pu voir et entendre à ce sujet dans les mois qui précédaient, comment on pouvait trouver une façon originale, inhabituelle, inédite de parler des problèmes de la Grèce. Et donc, on a choisi de se rendre à Patras. Et pour vous raconter un petit peu cette aventure, je vais laisser la parole donc aux étudiants, enfin à deux en tout cas, ou trois des étudiants qui étaient du voyage et qui vont vous dire un peu plus concrètement la manière dont ils ont préparé peut-être ce numéro et puis sans doute ce qui les a le plus frappés à l'occasion de ce déplacement. Je précise que en tant que donc directeur de l'école, je me réjouis de la réalisation de ce numéro, qui est certainement l'un des plus aboutis qu'on ait pu réaliser jusque-là, qui paradoxalement est celui qui a la pagination la plus réduite pour des raisons d'ordre financier et d'économie, mais qui vont nous permettre aussi de faire une partie multimédia qui n'existait pas jusque-là dans les numéros précédents de Viso. Et donc, ce que vous avez aujourd'hui sous les yeux et entre les mains, ce n'est que la première partie du travail réalisé par les étudiants. Donc, je vais passer la parole à Vincent, peut-être pour commencer, qui était donc l'un des deux rédacteurs en chef de ce magazine et qui va vous dire sans doute à la fois donc comment les étudiants se sont préparés et puis ce qu'il a retenu, lui, de ce déplacement, quel regard il porte aujourd'hui sur la Grèce.
Bien, ben, bonjour. Pour commencer, j'aimerais expliquer un peu ce qu'on retrouve dedans rapidement. Ce qui était intéressant à Patras, on l'a appris du coup au fur et à mesure, on s'y est intéressé une fois qu'on a connu notre destination. Ce qui est particulièrement intéressant, les trois problématiques majeures qui sont traitées dans le magazine sont les jeunes, savoir quel regard ils portent sur la Grèce. C'est une ville où il y a plus de 50% de chômage chez les jeunes. Donc, de ce côté-là, c'est représentatif, savoir comment ils envisagent leur avenir, s'ils veulent rester en Grèce ou pas. On parle beaucoup d'exode des jeunes. Beaucoup veulent rester en Grèce, beaucoup veulent changer les choses. C'est ça qui est ressorti. Il y a un vrai entrain à changer les choses dans le pays. Ça, c'était particulièrement intéressant. Ensuite, la problématique des migrants, même si Patras n'est pas du tout sous le feu des projecteurs de ce point de vue-là. Mais il y a eu un camp de migrants qui a été démantelé en 2009. Il reste encore quelques migrants, mais vraiment des cas isolés. Ils sont une vingtaine, une trentaine, qui essaient de passer depuis Patras pour rejoindre l'Italie. On a été les rencontrer aussi. Et donc, il y a un gros volet autour de la problématique des migrants. Dans chacun des sujets qu'on a traités, on essaie aussi d'élargir. On part d'un phénomène local et on a essayé d'élargir au niveau de la Grèce, voir si c'était représentatif ou pas et en quoi ça pouvait l'être. Le troisième gros volet, c'est sur le côté politique. Patras est une ville où le maire est communiste. Et donc assez critique envers Syriza. Et c'est une ville aussi qui a été le fief des Papandréou, qui sont de la gauche socialiste, si je ne dis pas de bêtises, qui ont été mis de côté maintenant. Et c'est assez intéressant de voir comment la politique a évolué dans cette ville et peut-être faire des projections à l'échelle du pays, si ça veut dire quelque chose ou pas. Ensuite, dans la préparation du magazine, on a passé... On s'est réellement mis peut-être un mois avant à vraiment réfléchir à des premiers sujets, des premiers contacts. On a travaillé avec différents intervenants extérieurs. On était piloté par
Sophie Dufaux.
Sophie Dufaux, merci, qui est rédactrice en chef adjointe à Mediapart. Donc, il nous a accompagnés dans les premiers jets du magazine. On a fait des premières maquettes, etc. Avancé au fur et à mesure, fait du tri, des sélections dans les articles qu'on allait faire ou pas. Mais finalement, tout ça, c'est vraiment précisé sur le terrain, où, comme pour n'importe quel journaliste, je pense, le reportage change un peu une fois qu'on arrive sur place. Et on a fini par 2 semaines, voire 3 semaines assez intenses de rédaction, maquette, mise en page. À la différence d'un média normal, le journaliste ici ne fait pas que rendre son papier, mais le met en page aussi derrière et travaille aussi sur toute la titraille et ce genre de choses.
Oui, donc moi je voudrais préciser aussi un peu qu'on a eu quelques difficultés sur place, donc notamment la barrière de la langue. Qui, bon, bien que les Grecs parlent plutôt bien anglais, surtout les jeunes, c'est pas le cas de tous les Grecs et personne ne parlait grec parmi nous. Donc il a fallu trouver des traducteurs et ce qui n'était pas toujours facile. Donc ça demandait une grosse préparation des sujets aussi en amont. Et on a été moins surpris par des sujets qui se sont trouvés sur place ou qu'on n'a pas pu traiter forcément aussi, certains qui sont tombés à l'eau. Donc à ce niveau-là, il y a eu pas mal de difficultés. Ont été rencontrés surtout sur plusieurs sujets, notamment au village d'origine des papas Andréou, donc qui était premier ministre, et où c'est un tout petit village de 50 habitants, pour la plupart retraités qui n'étaient pas forcément, enfin, qui n'avaient pas forcément fait beaucoup d'études, et donc qui étaient, pour le coup, ne parlaient presque pas anglais. Donc il y a forcément des problèmes de communication qui se sont trouvés. Et on a aussi deuxième problème qui n'était pas vraiment un, c'est qu'on est tombé en plein milieu du carnaval, du festival de Patras. Donc en fait, c'est une semaine de festivités très très intense. C'est le plus gros festival de Grèce, le plus gros carnaval de Grèce. Et donc beaucoup de jeunes de la fête jusqu'à 7h du matin parfois. Et les rues sont après les jours fériés après. Donc les rues étaient assez désertes. On a eu globalement que quelques jours pour réaliser tout le magazine.
D'un point de vue pratique, en fait, on est arrivé le vendredi soir, pendant le carnaval qui durait jusqu'au dimanche toute la nuit. Le lundi est un jour chômé chez les Grecs et on repartait le jeudi matin. Donc en fait, on avait vraiment mardi, mercredi où les gens étaient entièrement disponibles.
Voilà, je voulais juste rajouter que les étudiants ont fait quand même un énorme travail, aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif. Rien que dans les 3 dernières semaines de mise en page du journal, personne n'a pris un seul jour de congé, c'est-à-dire que l'école est restée ouverte le samedi, le dimanche. Et ils ont enchaîné 3 semaines de travail ininterrompu. Je précise que le carnaval, c'est super quand on vient comme touriste, mais que ça signifiait en fait 3 nuits sans dormir, puisque notre hôtel était en plein milieu des festivités qui, comme ça a été dit, ne s'arrêtaient pas avant 7h du matin. Autrement dit, tant qu'à faire, autant sortir, puisqu'on ne pouvait pas dormir. Mais du coup, ça a aussi permis sans doute des rencontres un peu inédites. Et puis, surtout de prendre la température vraiment de la population grecque.
Ah oui, on a bien pris la température.
Les jeunes Grecs, surtout étudiants, venaient des 4 coins du pays, de Thessalonique, Athènes, un peu n'importe où, et pour faire vraiment la fête, et donc plus ce carnaval avec les chars, les parades, donc la photo de couverture est peut-être le meilleur exemple. Donc avec une tonalité aussi politique, mais qui ne s'est pas tant retrouvée que ça. Je pense qu'on a tous été un peu surpris sur le fait qu'on s'attendait à plus de politique, plus de critique, de l'austérité, mais non.
Mais disons que la critique était assez diffuse. On l'a trouvée un peu sur des tas de plans auxquels on n'aurait pas forcément songé. On peut dire que c'était même que la politique était presque partout. Mais du coup, elle n'apparaissait pas peut-être comme on aurait pu s'y attendre. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est quand même le travail. Puis donc, je voulais féliciter les étudiants pour le travail qu'ils ont réalisé sur les migrants, puisque ça, c'est une question qui est très difficile à traiter. Surtout en 5 jours, pour arriver à recueillir des témoignages avec des gens qui sont dans la clandestinité, qui sont quand même amenés à commettre des infractions à la loi pour pouvoir monter dans des camions qui vont les emmener donc en Italie ou dans d'autres destinations. C'est pas très très facile pour recueillir en tout cas des témoignages, c'est très difficile. Et donc les étudiants ont fait un véritable travail, si je puis dire, d'immersion dans les lieux où se trouvaient les migrants pour arriver à les connaître, se faire accepter et puis, au bout du compte, recueillir des confidences qui apportent un poids et une authenticité tout à fait considérable au journal. Alors, l'un des maximes donc, a passé, lui, beaucoup de temps dans le centre des jeunes réfugiés, c'est-à-dire les enfants et adolescents qui se retrouvent sur les routes et sur les mers sans leurs parents, hein, qui
Vincent
partent...
Aussi. Hein, Vincent aussi.
Vincent, je m'excuse, mais vous étiez partout, donc voilà, mais il a fallu quand même y passer un certain temps, et puis là, l'obstacle de la langue n'était pas forcément, n'était pas facile à surmonter, dans la mesure où, certains jeunes connaissaient quelques rudiments de grec ou d'anglais, mais il fallait surtout connaître l'arabe, et là, il se trouve que dans le groupe, il y avait des étudiants, donc Reda Damani, qui est d'origine algérienne, qui parlait parfaitement l'arabe et qui, à un moment donné, a permis de débloquer complètement la situation parce que,
concrètement, allez, voilà. La responsable du centre ne voulait pas qu'on s'adresse directement aux mineurs pour des raisons de sécurité, etc. Donc, au final, Reda n'a pas vraiment pu faire le lien. C'est plutôt elle qui préférait traduire. Donc, on a été obligé de passer par elle, quoi.
Voilà, alors en même temps, il faut comprendre aussi que il y a tout un travail de protection assez remarquable des mineurs qui est fait par les Grecs pour empêcher les petits, les plus jeunes, de tomber entre des mains de trafiquants qui font aussi bien du trafic d'organes, prostitution, et qui, pour qui, enfin, les enfants sans leurs parents sont une proie vraiment très facile. Donc, ce qui explique aussi la rigidité des gens qui encadraient les jeunes migrants, et qui ne voulaient pas que n'importe qui puisse s'approcher d'eux. Donc, ça contribuait aussi à rajouter des obstacles supplémentaires, quoi. Mais le résultat, et vous le lirez, c'est que des témoignages très, très importants ont pu être recueillis. Et dans la ville de Patras, parce que je pense qu'il y a, comme Vincent l'a indiqué, il y avait donc d'une part les jeunes, il y avait d'autre part... les migrants, mais il y avait aussi un troisième personnage qui était la ville de Patras elle-même. Et cette ville, elle est intéressante parce qu'elle comporte, si ma mémoire est exacte, 60% de la population qui est d'origine immigrée, qui a soit eu des parents, soit des grands-parents qui ont eux-mêmes immigré. Le maire lui-même étant fils et petit-fils d'immigrés d'Asie mineure qui ont dû quitter la Grèce au moment de la fameuse grande catastrophe là, de 1920. Et donc, il y a une sorte de, je dirais sur le plan culturel, il y a une sorte de sensibilité très forte des habitants de Patras à l'égard des migrants et qui amène à un fait complètement paradoxal que là, on a bien pu pointer. C'est que, alors qu'on entend de tous côtés en France des gens qui se plaignent en disant « pourvu que les migrants s'en aillent », eh bien, en Grèce, c'est l'inverse. On en veut aux migrants qui ne choisissent pas de s'implanter. Parce que la richesse de la ville, elle s'est constituée avec les vagues successives de migrants qui se sont installés. Et donc, en gros, les migrants qui ont une stratégie de transit pour aller vers d'autres contrées, notamment vers l'Italie, indiffèrent une partie de la population grecque. En revanche, ceux qui ont pour projet de s'y installer, de contribuer à la vie économique du pays, eh bien, ceux-là sont bien accueillis. Hein. Ils sont bien mieux accueillis que ceux qui veulent partir. Donc ça, c'était quand même... quelque chose de tout à fait important que vous avez pu pointer.
Oui, d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, on parle beaucoup d'aube dorée, par exemple, en France. Donc, mais à Patras, c'est quelque chose qui est complètement, dans la ville en tout cas, qui est complètement... Enfin, qui n'existe pas, aube dorée. Tous les gens qu'on a rencontrés nous disaient que ce soit les migrants, ils ne sentaient pas le racisme de la population et les différents acteurs de la ville ne pensaient, enfin, aube dorée n'existait pas pour eux et que c'était plus aussi une création un peu de qu'on avait en dehors de la Grèce. Quand on pensait à la Grèce, on pense à aube dorée ou à Syriza, dans les niveaux du parti politique, mais que c'est quelque chose qui n'est pas forcément une réalité, et surtout pas à Patras, en tout cas, Donc, voilà, une ville assez dynamique à ce niveau-là et avec des élans de solidarité qui sont assez intéressants à voir et assez forts et qui se retrouvent, je pense, un peu à travers plusieurs articles qu'on a pu faire, que ce soit sur le maire qui a une façon assez originale de diriger la ville ou sur les problématiques liées aux migrants ou même aux jeunes. Donc, je ne sais pas si...
Oui, ce qui était quand même pour nous tout à fait stupéfiant, c'était cette culture de la solidarité qui fait qu'on a une population qui est quand même dans une situation très délicate sur le plan économique, hein, avec un nombre de chômeurs, un pouvoir d'achat qui est vraiment en baisse et qui arrive encore à accueillir de nouveaux arrivants, hein, et qui, au lieu d'y voir un danger, y voit une possibilité, une chance pour le développement du pays. Donc ça, c'était suffisamment exceptionnel pour que quand même on puisse le pointer, quoi. Et ça, on a pu obtenir vraiment des témoignages très, très concrets. Moi, ce qui m'a aussi frappé, vous n'en avez pas parlé, c'est l'attachement des Grecs à leur identité orthodoxe. Je ne parle pas simplement que de religion, mais d'identité. Et y compris dans cette identité, il y a la dimension de solidarité. Autrement dit, c'est aussi à travers les popes, à travers le clergé, donc orthodoxe, que se développe et s'organise la solidarité entre les Grecs, donc les Grecs les plus démunis, et également la solidarité avec les migrants. Hein, donc, je dirais que c'est toute la société civile, entre guillemets, comme on dit, de Patras, qui est traversée par cette culture de la solidarité. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez réjouissant à constater. Hein. Je voulais quand même remercier Maria Santosens, qui a quand même joué un rôle tout à fait fondamental là, pour la réussite de ce numéro, dans la mesure où il y a eu quand même 3 mois de préparation intense avant qu'on quitte Bordeaux, et que effectivement la réussite du numéro en restant 5 jours sur place reposait quand même sur tous les contacts, toutes les rencontres qu'on a pu faire en amont. Et vous verrez dans l'ours du magazine, la quantité de, enfin le nombre impressionnant de Grecs qui nous ont aidés sous une forme ou sous une autre. Et ça, bien évidemment, c'est Maria et les étudiants qui ont créé tous ces réseaux avant de partir. Et on n'aurait jamais pu réaliser cela si ça n'avait pas été fait de cette façon, quoi. Merci beaucoup.
Merci d'être venu.
Merci d'être venu.